Hommage à Fallout, partie 2. Octobre 2077. La Terre a été entièrement irradiée par la folie guerrière des hommes. Les survivants ont tous été atrocement changés par les retombées radioactives. Dans ce monde cruel, un seul homme peut sauver la communauté d'une mort horrible. Cet homme, ce héros, doit retrouver la puce électronique de purification des eaux. Bonjour, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre paquet de Steampack à vendre. Je suis intéressé à les obtenir.
Vous avez des esclaves?
Pas vraiment, non.
Bon, je suis prêt à vous les laisser pour 2000 capsules, 3 pilules de Radix et quelques iguanas sur un bâton.
Quoi? Je suis pas sûr de vous suivre.
Ok, monsieur le négociateur. 1000 capsules et les Steampacks sont à vous.
Écoute, j'ai 5 barils d'eau potable.
5 barils de flotte? Le cours d'eau a chuté depuis le récent arrivage de Nuka-Cola. Au moins avec ça, on est sûr de pas être malade.
J'ai absolument besoin de ces Steampacks. Une vache à deux têtes m'a mordu sauvagement.
Et est-ce que c'est marqué garde malade ici? Va te faire voir ailleurs.
J'aimerais bien vous voir face à une vache mutante enragée.
Ouais, c'est ça.
Elle devait avoir des dents grosses comme ça et un regard de feu. Je vous parle même pas de son pied rempli d'acide.
Ok, j'en ai assez entendu. Je te donne un system pack si tu sors de mon magasin.
Hurrah! Dites, vous n'auriez pas aussi une puce électronique de purification des eaux par hasard? What you alone can give, a kiss the bell and dream on.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique, la meilleure au monde. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une. François Gécouillard au micro, Guillaume Forand est là aussi. Salut Guillaume.
Bonjour.
Salut Alexandre.
Hey, la meilleure au monde, salut.
Ah ben, t'as un peu la meilleure au Québec, disons.
Ben, peut-être. Il y en a peut-être même pas d'équivalent, peut-être même pas en Afrique.
Ben, j'ai salué aujourd'hui même une gang de France, Gaming Spirit, hein, que j'en profite pour saluer. Hein, ils font un peu comme nous, mais en France.
Donc c'est passionnant, c'est partout dans le monde.
C'est partout dans le monde, la geekomanie est en train de prendre le contrôle de l'univers.
On va tout conquérir.
Écoute, on va faire un petit tour de table pour savoir de quoi qu'on va parler. Dis-moi, Guillaume, de quoi c'est sur quoi ton sujet aujourd'hui?
Mon sujet aujourd'hui, c'est un jeu de rôle français qui s'appelle Cops, d'un jeu dont je joue, et que je vais pouvoir expliquer l'univers et un peu le système, mais surtout l'univers très, très intéressant.
Et toi, Alexandre?
Alors moi, je vous parle de Black Mages, un groupe de musique à découvrir absolument, alors restez là.
Et moi, je vais avoir quelques news sur le domaine ludique à vous refiler. Il se passe tout le temps plein de choses pendant la semaine. Sinon, ben, on va commencer tout de suite en musique. La première pièce, c'est toujours celle de notre ami, justement, français de Musax, musax.info. C'est Yannick Capmarty qu'on salue. Et il va présenter lui-même sa pièce. Vous écoutez Puissance Maximale.
Pour séduire sa belle, Parapa le rappeur n'hésitera pas à prendre des cours de cuisine avec une poule pas très commode. Afin d'arriver à mémoriser les actions à effectuer en rythme avec la musique, le joueur devra très certainement s'y reprendre de nombreuses fois.
Every single day, stress comes in every way. I ain't got no time for nobody. My style is rich, dope, fat, and rich. We'll make a cake today that looks rich. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. M-I-X, the flour into the bowl. M-I-X, the flour into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. M-I-X, the flour into the bowl. M-I-X, the flour into the bowl. Baking a cake, yes, means you gotta try. I'm doing this for years, but don't ask me why. Butter, butter, butter joins the bowl.
Butter, butter, butter joins the bowl.
We're making us a cake that you've never seen before.
Making us a cake that you've never seen before.
Heat up the oven, now we're on a roll.
Heat up the oven, now we're on a roll.
Cheep, cheep, cheep's the name of my soul.
Cheep, cheep, cheep's the name of your soul.
The other day, I was called a little turkey. But I'm a chicken goddess, your beef jerky. Put the cake in the oven for a while.
Put the cake in the oven for a while.
Leave it there, come on, clean the pile.
Leave it there, come on, clean the pile.
Put the cake in the oven for a while.
Put the cake in the oven for a while.
Leave it there, come on, clean the pile.
Leave it there, come on, clean the pile.
Here, I got a little sample.
Here, I don't have a sample.
'Cause ample time's just what we don't have.
'Cause money and time's just what we don't have.
A chicken in the kitchen is making all the sound. The cake is done while we were sitting around. All we gotta do is apply the final touches.
All we gotta do is apply the final touches.
Take off the shrimp, the clam, and the perches.
Take out the shrimp, the clam, and the perches.
The perch goes here, the clam goes there.
The perch goes here, the clam goes there.
The little tiny strips just go everywhere.
The little tiny strips just go everywhere.
Whatever you like's in the middle, fiddle.
Whatever you like's in the middle, fiddle.
Seafood cake comes just like the riddle.
Seafood cake comes just like the riddle.
Okay, okay, that wasn't so hard, was it?
No problem. But how'd you get out the 3D?
Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale.
Et oui, c'est bien Puissance Maximale, et non pas le jeu Parapa de Rapper qui a pris le contrôle de vos ondes. Non, non, c'est vraiment une vraie radio qui fait jouer ça. Écoutez, on commence tout de suite en feu avec Guillaume Forant qui va nous faire, va nous parler de Cops.
Oui, un petit topo sur le jeu de rôle de Cops. Cops, premièrement, c'est quoi que ça veut dire? Parce que bien sûr, c'est un acronyme. Cops veut dire Central Organization for Public Security.
Oh.
Donc, ceci est un peu un jeu français qui quand même comporte environ, si je me souviens bien, c'est 16 suppléments, 16 livres qui ont sorti dans pour le jeu. La première édition,
c'est populaire quand même.
C'est quand même, il y a quand même un bon engouement pour surtout en France. C'est sorti en 2003. Et l'éditeur c'est Asmodée. Donc c'est quand même une compagnie connue qui a sorti plusieurs produits.
Asmodée, si je me trompe pas, ils font des jeux de plateau aussi, hein?
Si je me trompe pas, oui, effectivement, ils font des jeux de plateau, mais là, je pourrais pas m'embarquer trop là-dedans, je connais pas particulièrement, mais si je me souviens bien, oui, effectivement, ils font des jeux de plateau aussi. Cops, c'est quoi? Dans le fond, l'univers de Cops. On joue un policier à Los Angeles en 2030. Jusqu'à date, rien d'exceptionnel. Mais, bien sûr...
Un setting de science-fiction, peut-être qu'on pourrait dire...
Un petit peu science-fiction. Il y en a un petit peu. C'est la science plus évoluée. Mais qu'est-ce qui rend ça plus particulier, c'est comment ils ont fait évoluer le monde. Première des choses, on joue dans la ville de Los Angeles, dans une Californie libre. Donc, la Californie qui s'est séparée des États-Unis et qui s'est fait joindre par, entre autres, Hawaï, aussi comme État qui s'est joint à eux. Donc, ils sont pas les seuls qui s'en sont joints, qui s'en sont séparés de la dans le fond des États-Unis. Donc, ils en ont profité après plusieurs désastres naturels aux États-Unis pour se séparer et créer leur propre république d'une certaine façon à ce moment-là. Donc, la République libre de la Californie.
OK.
Dans dedans, le jeu. Est-ce que le crime règne en Californie ou
le crime ne règne pas, mais il est quand même présent. Okay. Puisque justement, c'est une nouvelle nation qui est née. Il y a plusieurs secteurs criminels qui tentent d'en profiter pour s'intégrer dans un endroit qui est bien sûr qui a moins d'expérience pour combattre. On joue des cops, donc on joue des policiers spécialisés d'une certaine façon. Donc, il y a la police normale qui existe toujours dans l'univers, mais pour combattre justement le fléau des criminels qui ont rentré, il y a eu beaucoup aussi de... Les États-Unis, quand ils ont vu qu'ils se sont séparés, que la Californie s'est séparée, mais quand il y avait des gens qui voulaient quitter, qui voulaient immigrer, ou des criminels qui voulaient plus avoir, ils envoyaient toujours de ce côté-là.
Ah, tous les criminels se ramassent en Californie.
Il y en a beaucoup qui se ramassent là-bas. Donc, ils ont pas eu le choix pour lutter contre le crime qui montait. Ils ont dû créer une nouvelle division de la police, du LAPD, donc de la police de Los Angeles, qui s'appelle le COPS, pour mieux lutter. Donc, les COPS, c'est un petit peu, on pourrait dire, la version FBI, CIA et police, toutes mélangées en un. Donc, on joue un agent spécial de la force qui a presque tous les droits. Donc, on enquête sur tout. On a la priorité pour enquêter sur des enquêtes que même si quelqu'un d'autre est déjà dessus, on a le droit de le tasser pour prendre la place parce qu'on est mieux ici équipé pour le faire.
OK. Mais est-ce qu'il y a différents grades dans la police ou
tout à fait, il y a des grades différents. Qu'est-ce okay. que une des petits bijoux justement du jeu, on commence avec des détectives de base. Donc on vient juste de sortir de l'académie de cops et on commence avec nos premières enquêtes. Qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on a des stages. Donc des stages de police qui nous permettent de mieux approfondir justement nos compétences. Mais ça se mérite en jeu. Donc, par nos actions, en se démarquant, en faisant des enquêtes, en les réussissant, on acquiert les droits de faire des stages.
Donc, dans le jeu de Roll Cops, il y a des stages. dans la vraie vie.
C'est un petit peu des stages, c'est ça, justement. Un des stages de conduite, le premier niveau de stage, donc le stage de base, s'appelle auto-tamponneuse. Bien sûr, on en retrouve dans le jeu beaucoup d'humour à la française, donc beaucoup de jeux de mots, des petits clins d'œil à gauche puis à droite. Donc, un petit jeu très intéressant. Personnellement, ça fait quelques mois que je joue à ce jeu-là avec un maître de jeu qui est passionné de ce jeu, qui nous l'a fait découvrir. Au début, il n'était pas trop sûr du système de jeu. Il y a eu des commentaires plus ou moins gracieux dessus. Donc, il avait conseillé que le système de White Wolf, de Vampire, pour jouer au jeu. Mais à force de lire les livres, les suppléments, il y a tellement de choses intéressantes, entre autres des poursuites de voitures. Il y a un système fait pour les poursuites de voitures, un combat quand même dynamique. Donc, il y a beaucoup de choses intégrées dans le jeu, même si c'est pas un système parfait, il est quand même intéressant. Il donne vraiment une ambiance, comme qu'on voit dans les films de policiers, les Die Hard, les armes fatales. Donc, on peut facilement retrouver un personnage de ce style-là et interagir dans l'univers, donc de combattre le crime, de faire des chasses à l'auto.
Et finalement, vous avez adopté le système de COPS, là.
Oui, donc ça fait pas longtemps qu'on l'a adopté, et le système de COPS, justement, par rapport à des stages de police, donc d'avoir des promotions, faire des combats plus intéressants, donc plus dynamiques, au lieu de juste faire, je tire sur le méchant, là, on s'est dit, je vais essayer de dégainer mon arme plus rapidement pour pouvoir tirer dessus, je vais me mettre à couvert, donc il est beaucoup plus dynamique, on bouge beaucoup plus. Mm-hmm. Puis bien sûr, en tant que COPS, on est quand même une élite, donc on est meilleur que la norme standard.
Il y a beaucoup de bastons, j'imagine. Est-ce que le système se passe bien, justement, pour les bastons? Est-ce que ça se passe rapidement? Parce que c'est ça le problème, je pense, des jeux de rôle en général. Souvent, les bastons, ça prend beaucoup de temps.
Je te dirais que ça peut être court, comme ça peut être moyen comme combat. L'avantage que ce système-là a, c'est que les méchants sont moins endurants que les cops. Donc, eux tombent plus vite. Donc, les cops peuvent quand même en prendre plus. Un petit peu comme dans les films. Si dans L'Arme fatale, le personnage de Mel Gibson, après avoir subi une balle à l'épaule, il tombe par terre puis il bouge plus, ça serait plate.
Ça marche pas.
C'est plus un film d'action, là. Mais justement, dans le jeu, on peut se permettre de pouvoir justement un petit peu encaisser des balles dans les épaules, continuer à se battre, courir après les méchants, faire des courses de police. C'est sûr certain que oui, il y a du combat dans le jeu, mais de base, c'est un jeu d'investigation. Donc, on enquête sur des meurtres, sur des crimes, des enlèvements, et c'est vraiment dans le fond qu'on peut voir dans tous les films de policiers. Oui, il y a des fusillades, il y a des poursuites, mais de base, c'est une enquête, c'est une histoire. Faut découvrir les preuves pour se rendre jusqu'au méchant, pour pouvoir l'arrêter, bien sûr en lui lisant ses droits avant en l'arrêtant, parce que sinon il va pas s'en sortir.
OK. Donc, puis toi personnellement, quand tu joues à ce jeu-là, est-ce que tu joues un bon policier ou un mauvais policier?
Je joue un bon policier. Mon personnage, bien sûr, pour faire des choses différentes un peu, parce que dans le jeu, il y a plusieurs façons de rentrer dans le COPS. Soit qu'on peut avoir été recruté des forces armées des États-Unis quand ils se sont séparés, on faisait partie du FBI, on a été à l'académie de police, ou on peut avoir des gens haut placés dans le gouvernement qui poussent pour que des gens rentrent. En tout cas, mon personnage, même si c'est un gentil, c'est son père qui avait des contacts. Puis puisque lui était pas capable de passer les examens par lui-même, s'est fait pousser à l'intérieur.
T'es un fils à papa.
J'étais un fils à papa. Tout à fait, mais il faut qu'il y en ait un petit peu partout de ça. Au sens, ça serait plate, tout le monde serait pareil. Mm-hmm. Donc, moi, personnellement, ce petit jeu-là, je le suggère aux gens. C'est sûr que le système n'est pas parfait. L'avantage, par contre, c'est qu'il est en français comme jeu. Donc, pas obligé d'essayer de courir, trouver la version française. Le jeu, il est juste en français. Par contre, pas évident à trouver au Québec. Quand on l'a, c'est quand même dispendieux. Entre autres, pour mon maître de jeu, quand j'ai fait un petit voyage en France récemment, j'ai ramené 2 suppléments, puisque ça revenait moins cher de le payer en euros que de l'acheter ici avec les prix dans les magasins, malheureusement. Mais un bon petit jeu intéressant, puis pour les gens, ça permet justement de faire une ambiance de policier, d'enquête, comme qu'on voit dans les films, qui sont quand même des types de films très populaires, les séries de policiers.
Oui, puis même les séries télévisées aussi. Là, je pense par exemple aux Sopranos qui sont souvent orientés sur les gangsters, mais bon...
Effectivement, c'est très facile à adapter pour aller dans le sens inverse, donc de jouer des criminels qui essaient justement de combattre les cops qui enquêtent sur eux. C'est très facile à faire. On peut facilement aussi changer un petit peu l'emphase pour aller un petit peu plus comme les CSI, donc un petit peu plus investigation scientifique. C'est quand même assez facile. L'univers se porte bien à ça. Donc, beaucoup de possibilités. Puis, ils ont quand même développé le monde sur une durée de 4 ans à travers tous les suppléments. Donc, il y a quand même beaucoup d'histoires, beaucoup d'informations. Et la communauté est très forte dessus. Donc, beaucoup d'informations. Et quand on a des questions, on les pose sur les forums.
Ça
répond. Donc, c'est quand même quelque chose qui est encore actif, même si le jeu n'est plus produit officiellement. Donc, en fond, il ne sort plus rien de nouveau. Par contre, il est quand même très apprécié par plusieurs personnes. Il y a encore beaucoup de communautés qui sortent des suppléments non officiels.
OK.
Encore.
Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Guillaume, de nous avoir fait découvrir ce jeu-là. Donc, c'était le jeu de rôle COPS.
Tout à fait. Un des très bons jeux français.
Et sinon, on va poursuivre cette émission de Puissance Maximale. On va aller écouter une pièce de Pépé, donc Philippe Gigroux de son vrai nom. Et ça va être la pièce Bobette Bob, n'est-ce pas? Donc, une toune sur des bobettes. On revient tout de suite après. Vous écoutez Puissance Maximale.
Ça arrive pas souvent que je sors pour m'acheter des bobettes. Ceux que j'ai sont tellement usés que tu me vois la caquette. J'attends jusqu'à temps qu'ils soient usés à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde.
Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob.
Pour vous penser que je suis juste un gros dégueulasse. Je suis nostalgique de mes des bobettes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché.
Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob.
J'attends jusqu'à temps qu'il soit usé à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde. Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes ne se font plus sur le marché.
Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximal.
Eh bien oui, on écoutait juste avant Philippe Groux, n'est-ce pas, qui a fait un album qui s'appelait 100% Bœuf, hein, un album sur lequel on se trouve, il y a une espèce de bœuf avec tous les quartiers de bœuf qu'on peut découper pour faire de la bonne viande, du bon manger.
La bonne boucherie.
D'ailleurs, il y a une pièce sur son album qui s'appelle Déjeuner Santé. C'est absolument extraordinaire. C'est un hommage aux fèves au lard, puis aux œufs, puis aux crétons. C'est vraiment extraordinaire.
Ça, c'est santé.
Musique de fond?
Oui.
C'est pas la bonne?
Non.
Alexandre Bélanger, tu viens de parler de musique, encore une fois.
Mais bien sûr, moi, je suis tout le temps là pour parler de musique à puissance maximale, mais pas n'importe quelle musique. Bien sûr, c'est de la musique de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose de bien important, de bien connu. Dans le domaine des musiques de jeux vidéo. Disons que c'est le premier artiste que j'ai découvert qui était aussi solide le côté artistique et qui à la fois fait aussi référence aux jeux vidéo et surtout à Final Fantasy. OK, moi je reviens souvent là-dessus, mais bon, en 1992-93, quand j'ai joué pour la première fois à Final Fantasy IV, la musique, ça a été la première fois que j'ai remarqué la musique dans un jeu. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est un moment important pour beaucoup de gens, parce que normalement, on est habitué de jouer au Nintendo 8-bit, puis on ne remarquait pas la musique, on voyait pas, on pouvait pas concevoir que la musique était vraiment bonne. Mais là, avec Final Fantasy le 4, surtout avec le Super NES, la nouvelle puce, comme j'ai parlé dans les chroniques antérieures, comme j'ai énoncé, ben la musique s'en venait vraiment bonne, vraiment orchestrale.
Et donc, il commençait à avoir les moyens techniques pour avoir de quoi de bon. Hein.
Oui, réellement, là, réellement orchestral, vraiment profond et tout. Et ça, c'est la musique de Final Fantasy. Elle est restée dans le cœur de bien des gens, surtout ceux qui ont joué, qui se sont lancé dans les émotions que le jeu nous procure.
Et pourquoi le quatrième Final Fantasy en particulier?
Parce que c'est le premier qui est sorti sur la Super Nintendo, okay. La première console qui était dotée d'une puce capable vraiment de jouer 16 canaux. Et là, je dis tout ça pour en venir au fait, c'est que cette musique-là, bon, elle est restée dans le cœur de bien des gens. Et au moins une décennie plus tard, deux collaborateurs employés de Square Enix, la compagnie fusionnée de Squaresoft et Enix, deux compagnies de role-playing games très importantes au Japon, qui ont fini par fusionner, bon, dans la grosse histoire des jeux de l'industrie des jeux vidéo. Et ces deux compositeurs-là se sont retrouvés à collaborer ensemble, à faire du rock pour un jeu de lutte. Ah, aucun rapport. C'est vraiment, mais il devait faire des pièces rock, parce qu'on sait qu'avec l'arrivée du CD après le Super Nintendo, mais là on avait maintenant la possibilité d'ajouter des pièces en analogue.
C'est ça, en format audio là.
Exact. Mm-hmm. Ouais. Sans se lancer trop dans les détails techniques, parce que bon, on pourrait toujours préciser. Bon, mais maintenant on a la possibilité depuis plusieurs années de placer des instruments rock, des vrais instruments. Dans des musiques de jeux vidéo. Et donc, la musique s'est développée. Et ces deux compositeurs-là faisaient du rock pour un jeu de lutte.
C'est quoi ce jeu-là?
C'est All Time Pro Wrestling.
Okay.
Et j'ai pas été voir plus loin, étant donné mon manque d'intérêt pour la chose, mais c'est peut-être un jeu extraordinaire, je sais pas. Mais ce qui arrive, c'est que ces deux gars-là, dont les noms c'est japonais, sont japonais, et dont mon fichier de notes a disparu dans des merveilleux bugs de l'ordinateur. Bon, donc, j'ai pas le nom de ces Japonais-là, et je ne le sais pas par cœur, mais ces deux Japonais-là étaient réunis pour travailler, et ont décidé de commencer à faire des pièces de Final Fantasy en arrangement rock. Ce qui correspond à un rêve pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que d'entendre des pièces, de ces magnifiques pièces-là qui étaient simplement synthétisées, mais de les entendre en version arrangée, de les entendre avec la distorsion,
plus d'émotion.
Ben, des vrais instruments. On n'est plus dans les samples, on est vraiment dans le feeling, là. C'est ça le mot que j'ai, l'émotion de l'instrument, là, vraiment dans toute la subtilité, la nuance qu'un instrument peut apporter, qu'il n'y a pas dans des versions normalement dues aux jeux vidéo. Et ces deux compositeurs-là se sont fait remarquer par Nobuo Uematsu, qui est le grand compositeur, qui est rendu un maître très connu, une superstar dans le domaine.
Oui, t'en avais déjà parlé d'ailleurs, oui. Et c'est lui
qui
a toujours fait le soundtrack
jusqu'au 10.
Final Fantasy.
Ouais, jusqu'au 10.
Jusqu'au 10. Après ça, il a pris sa retraite.
Il est devenu pigiste. Il a travaillé sur d'autres projets, dont Blue Dragon, un autre RPG. Donc, c'est un pigiste, un freelance, comme on dit en anglais souvent. Quelqu'un qui est libre et autonome et qui est assuré d'avoir des contrats pour le restant de ses jours. Donc on s'inquiète pas pour son avenir, mais lui est toujours ami avec les gens de Squaresoft, toujours dans la boîte quand même, parce que non très important, constate que ces deux jeunots font de la musique rock avec ses pièces à lui. Et bon, en discussion, lui, il trouve ça génial, les endosse, voulait produire un album. Mais les deux jeunes ont convaincu le compositeur de faire partie de leur groupe. Donc, Nobuo Uematsu fait partie du groupe et de Black Mages. Et c'est ça que je suis venu vous présenter. Et là, la pièce en arrière est déjà terminée ou elle continue encore?
Ouais, elle est finie, mais je vais la mettre.
Ouais, ok, c'est bon, parce que bon, c'était la première. Ça veut dire que ça a été long. Mais on y est, c'est les Black Mages. C'est le groupe rock des pièces de Final Fantasy dans lequel il y a Nobuo Uematsu, le compositeur des pièces originelles.
Et pourquoi Black Mages, comme ça le nom?
Bon, les Black Mages, vous savez c'est quoi peut-être, si vous avez déjà joué, le Black Mages c'est le magicien offensif, le magicien noir, le magicien qui fait de la magie et qui fait mal. Pas la magie qui guérit, la magie qui fait mal.
Pas la magie de Momon, la magie d'offensive.
Oui, la magie offensive. Oui, François, oui. Et donc, un peu l'esprit metal, l'esprit rock qui est dans The Black Mages fait en sorte que c'est The Black Mages. Hein? C'est pas le White Mages, c'est pas Hill qu'on fait. Là,
c'est, non, c'est ça.
C'est des gros...
Ça ne fait pas des cœurs. Il y a tout le temps quelqu'un dans Final Fantasy, dans les jeux de Final Fantasy, il y a tout le temps un personnage qui guérit puis qui envoie des cœurs aux autres, hein, des autres personnages pour les guérir. Ça, là, non, c'est inacceptable.
On y est, mais il y a beaucoup d'albums qui sont comme ça. Il y a un album qui s'appelle Prey. Hein, de, enfin, non, mais là, on est dans un autre domaine. Des albums réarrangés qui sont beaucoup plus du côté blanc. Mais là, enfin, on est du côté noir avec The Black Mages. C'est d'ailleurs la première pochette. Il y a 3 albums en tout. La première pochette est noire complètement. Et elle est dédiée uniquement au thème de bataille. Donc, on a les batailles des jeux et sont en version métal. Donc, on a vraiment là un bon mix. Là.
Des pièces plus rythmées.
Rythmées, bien composées, quand même assez complexes, mais rythmées, solides. Bonne base rock, mais toujours avec des arrangements orchestraux là dedans. De la rapidité aussi, beaucoup de bon, c'est ça, de la rapidité. Je veux pas dire de l'agressivité, parce que c'est pas ça exactement. C'est de l'entrain, hein, de l'entrain comme quand on est en bataille. Et c'est quelque chose qui te donne le goût de te battre et d'être aux aguets et d'être très attentif. Donc une musique qui réveille, une musique qui stimule un peu trop peut-être. Et donc bon, le premier album est dédié aux pièces de combat. Ça peut laisser des fans déçus un peu. Ceux qui rêvaient peut-être de version metal peuvent se découvrir les jams assez nombreux, les improvisations musicales assez nombreuses. Donc beaucoup de travail libre fait à partir des pièces. Donc on part des pièces, mais beaucoup d'improvisation, beaucoup de solos rajoutés, des solos de synthétiseur, des solos de guitare.
Tu es un peu déçu de ça?
Ben, sur le coup, non, moi j'ai bien apprécié.
Okay.
Personnellement, comme bien sensible à la musique, j'aime bien écouter des choses bien travaillées, bien complexes. Mais un fan un peu réduit va avoir un peu de difficulté parce qu'il va trouver des nouvelles choses. Ça sera pas intégral.
Ça sera pas qu'est-ce qu'il est habitué d'entendre.
Exact, non. C'est en plus d'avoir de la distorsion, en plus d'avoir des instruments, mais là, t'as toute une nouvelle dimension soliste, des nouveaux arrangements qui viennent s'intégrer. Mais ça, comme là on entend, je sais pas si vous pouvez reconnaître Bombing Mission de Final Fantasy VII, qui est un grand hit dans les Final Fantasy. Et là on a vraiment des solos et là, ils sont partis là, dans leur dithyrambe. En tout cas, ils sont partis là, de façon dithyrambique. C'est ça que je voulais dire. Oui, et c'est vraiment des grosses.
Je pense que les inspirations progressives sont là, je pense. C'est 4 minutes et demie la pièce. J'imagine qu'il doit y avoir des pièces encore plus longues aussi. Hein.
12 minutes, 15 minutes
parfois. C'est typique de la musique progressive, les grandes pièces, les longues pièces complexes avec du synthétiseur, de la guitare, puis tout ça.
On va dire qu'il y a deux claviéristes. Il y a quelqu'un au synthétiseur, quelqu'un à l'orgue, vraiment à l'orgue classique. Nobuo Uematsu est à l'orgue classique. Et il y a quelqu'un aussi au synthétiseur pour l'échantillonnage des sons. Donc on a vraiment là, c'est vraiment un gros combo. T'as deux guitaristes, un bassiste, un drummer, un batteur, et en plus de ça, quelqu'un au synthétiseur et quelqu'un au clavier. À l'orgue, comme tel. Donc, on a un vrai bon groupe rock. Il y a 3 albums, là j'ai parlé du premier. Le deuxième est un peu plus varié. Côté, c'est pas seulement qu'il y a des pièces de bataille, aussi des pièces de... Oui. Des pièces de toutes sortes de styles. Et enfin, le troisième album qui est le plus mainstream, le plus accessible à tous, qui est composé de pièces d'opéra, la grande opéra de Final Fantasy VI. Moi, il m'a vraiment déçu. Personnellement, faut peut-être comprendre le japonais, là, parce que j'ai moins aimé ça. Mais c'est un grand groupe à connaître. C'est peut-être le groupe le plus connu. Et c'est la première fois vraiment que des gens des jeux vidéo font de la musique rock à partir de leurs pièces. Et que c'est vraiment, là, un groupe en tant que tel. C'est la première fois que ça arrive là, dans l'histoire des jeux vidéo, okay. À mon avis, là, à mon savoir. C'est vraiment la première fois que ça arrive. Et voilà, The Black Magus. Et je vous conseille vraiment de le downloader parce que c'est pas achetable. Là. Ça coûte 60-65$. C'est des versions japonaises. Faut vraiment importer. Mmh. Alors, téléchargez. Puis je vous en prie, n'hésitez pas. Pas de scrupules, pas de remords avec ça. Allez-y fort. Et ça se trouve assez facilement. Le monde est à vous et on a qu'à se partager les fichiers. Alors, je vous invite à le télécharger. Et si je pouvais vous l'envoyer, je vous l'enverrai.
D'ailleurs, tu m'as envoyé un lien, le Game Music for All. Là, on peut trouver plein de musique de 8 bits, de jeux vidéo là-dessus. C'est gratuit.
Ah, il y a du stock là-dessus. Ça n'a aucun allure. C'est tous les artistes qui s'inspirent de jeux vidéo envoient des choses. Moi, ça me dépense tellement qu'il y a de choses. Game Music for All 4 ALL.
Ouais. Donc, les gens vont juste aller sur Google, taper ça, et ça va être pas mal magique. Sinon, ben, merci Alexandre Bélanger. Il venait nous parler de Black Mages, un groupe de musique, de jeux vidéo.
Hey, on va se laisser avec une pièce, une excellente pièce de Final Fantasy IV que je mentionnais, c'est The
Battle with the Four Friends.
Donc, bataille. Fiends.
Fiends. Fiends. Ah, bataille contre les quatre ennemis.
Exact.
Donc, on va écouter ça sur Puissance Maximale. Restez à l'écoute.
We'll be right back.
Et oui, vous êtes de retour à Puissance Maximale et nous poursuivons cette émission déchaînée avec en ligne Vincent Langlois qui est directement du sud du Québec, dans la jungle canadienne. Salut Vincent.
Salut tout le monde, vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend bien. Donc tu viens de parler de Prince of Persia.
Oui, j'ai pas le choix, j'aurais aimé être avec vous en studio après-midi, mais il semble que des éléments ont joué contre moi et que le fleuve est tout glacé.
Ben oui, t'habites dans une contrée très éloignée qui s'appelle Lévis.
Ah, c'est tellement loin, en fin de compte, même que la meilleure façon de s'en aller à Sequoia, normalement, après le travail, c'est de prendre le traversier, mais bon, tout était bloqué. Bon, passons maintenant à Prince of Persia, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui, qui est un jeu qu'on peut retrouver sur la PS3, sur la Xbox 360, et également sur le PC, un jeu d'action et d'aventure pour ceux qui ont joué à Prince of Persia dans le passé, par exemple, le jeu de Sand of Time qui était sur la GameCube également, de Two Thrones, et bon, on parle de jeux de Prince of Persia qui sont en vente depuis longtemps. Bien, c'est le nouveau de la série, édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Montréal.
OK, hein, c'est intéressant, c'est la gang de Québec qui ont travaillé là-dessus.
Excellent, c'est ça, oui. Et bon, c'est classé adolescent, on peut l'avoir pour une soixantaine de dollars en magasin, c'est disponible depuis décembre dernier. Dans le jeu, bon, comme à l'habitude, on incarne un homme, cette fois-ci c'est un jeune pilleur de tombes qui est à la recherche de son âme. Il a pillé quelques tombes dans un monde du Moyen-Orient, mais quand même un petit peu fantaisie aussi. Là. On ne peut pas vraiment nécessairement déterminer de quel monde il s'agit, mais on sait bon que c'est du Moyen-Orient. Et en fin de compte, on sait qu'il a pillé des tombes et que son âme porte sur son dos toutes les richesses qu'il a pillées.
Et est-ce que c'est respectueux des autres Prince of Persia avant, l'univers, donc c'est toujours l'Orient, quoi, c'est...
Ouais, en plein ça, c'est tout simplement ça, et en fin de compte, c'est très respectueux du type de jeu qu'on rencontre d'habitude de Prince of Persia, surtout dans les derniers qui ont été développés, c'est-à-dire un jeu un peu à la Lara Croft, dans lequel on doit tout simplement passer d'un tableau à l'autre et sauter d'un morceau de bois à l'autre, en fin de compte, en faisant des prouesses.
C'est un jeu d'acrobatie, mais aussi un jeu de combat, faut pas oublier.
Également, c'est ça. Enfin, quand une fois que les acrobaties sont faites, on se retrouve souvent sur un plateau où on retrouve un ennemi à affronter et on doit bien sûr le battre pour avancer plus possible. Et ici, le but, en fin de compte, c'est qu'à chaque tableau, c'est le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est mort, qui est désolant. Il n'y a rien de vie autour et à chaque fois qu'on bat le boss du tableau, comme on dit, on peut remettre le monde à vie, donc remettre de la verdure, des choses comme ça.
Tu as dit, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on a le choix, oui ou non?
En fin de compte, on nous dit de le faire en allant dans le faisceau lumineux et aller peser sur le triangle, mais j'imagine qu'on pourrait sortir et le faire tout simplement à la fin. Moi, je l'ai fait à chaque fois présentement. Pas trop de problème, mais faut appuyer sur le triangle dans le faisceau lumineux pour le faire, donc le triangle de la manette. Et nous pensons de le faire tout le temps, bon, parce que ça te permet d'aller chercher ce qu'on appelle en fin de compte des light seeds, qui sont en fin de compte des petites boules de lumière qui nous permettent après ça d'avancer plus loin dans le tableau.
OK, donc dans le fond, t'as pas vraiment le choix de ranimer le monde à la vie si tu veux continuer à plus loin dans le tableau, dans le fond.
C'est ça, mais tu dois en ramasser plusieurs pour pouvoir ouvrir les autres tableaux qui sont plus loin. Au niveau des effets visuels, de l'ambiance, c'est quand même très bien. Les cinématiques sont très bonnes. Les dessins, les graphiques des bonhommes ressemblent un peu à du manga, un petit peu à la bande dessinée. On voit les contours un petit peu plus noirs des mains, du corps, des personnages. Donc, c'est quand même intéressant comme mélange d'effets visuels. La musique est quand même très bonne ici. On a la possibilité de jouer avec une partenaire qui s'appelle Elika. C'est une fille qu'on rencontre au départ. Et elle nous permet justement, au niveau de la jouabilité, de ne pas mourir dans le jeu. Donc, à toutes les fois qu'on tombe, elle vient nous rattraper automatiquement.
Ah, c'est-à-dire qu'on peut jamais mourir.
Et moi, en fin de compte, ça n'est pas arrivé encore. Et elle est toujours là pour nous sauver. Et même dans les autres Prince of Persia, si je prends Sand of Time dans le temps, c'était la même chose. On avait une genre de barre de vie. On pouvait revenir à la vie. Jusqu'à une certaine limite. Mais bon, c'est un jeu qui est assez linéaire quand même. C'est pas un jeu qui est extrêmement difficile à faire. C'est du point A au point B qu'on doit se rendre. Les chemins à suivre, on peut toujours les demander à Elika, qui est notre amie, qui est avec nous. Elle peut nous indiquer où aller. Et bon, bien sûr, c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, c'était de se battre et d'avancer le plus possible dans les différents tableaux.
Là, au niveau de l'histoire du jeu, est-ce que c'est une bonne histoire qui...
dans le fond, qui nous entraîne à vouloir aller plus loin pour découvrir qu'est-ce qui va se passer, ou c'est juste, on veut juste libérer, dans le fond, de notre fardeau, des âmes qu'on traîne sur nous, ou c'est vraiment pour avancer, on a un but plus précis à faire?
En fin de compte, il y a vraiment une histoire à faire, c'est qu'on doit partir à la recherche d'un dieu méchant, d'un démon qui s'appelle Ahriman, et bon, qui est bien sûr du mauvais côté. Et ce dieu-là a été libéré par le roi du royaume, par le père de Delica. Il a été libéré, on doit partir à sa recherche, on doit le trouver, sûrement l'affronter à la fin. Moi, j'ai à peu près 70% du jeu de compléter. Donc, le but, c'est vraiment d'aller à la fin. On le voit de temps en temps, mais j'imagine qu'à la fin, ce sera notre combat final.
Justement, en parlant du combat un peu, je me rappelle que le premier, le Sand of Time, ça avait connu du succès justement à cause des combats qui étaient particuliers, qui avaient une certaine dynamique assez particulière, assez originale. Est-ce qu'il y a eu des innovations comme ça pour ce nouveau Prince of Persia?
Oui, tout à fait, des combats, on peut faire des combos en fin de compte, un peu comme quand on joue à Ninja Gaiden ou des jeux comme ça, en appuyant sur les différents boutons, un après les autres. Mais oui, il y a des petites cinématiques qui sont incluses. On peut éviter des coups de notre adversaire dans une sorte de cinématique. Donc, on voit le combat change comme si on venait en cinéma. Et on nous demande d'appuyer sur X, sur 0 pour esquiver. Donc oui, il y a quand même des belles choses qui sont faites au niveau du combat dans ce jeu-là.
OK, c'est intéressant. Sinon, quoi d'autre?
Ben, c'est un jeu qui permet de débloquer des trophées. On sait que les trophées sont arrivés sur PlayStation il y a quelques temps déjà, et que les gens aiment bien ça maintenant, de pouvoir, je sais pas, une fois que tu as affronté 10 personnes, de voir un petit trophée qui apparaît dans ton écran, et de devenir un joueur avec de plus en plus de niveaux et de trophées au niveau du PlayStation Network. Alors oui, ça permet de débloquer les trophées. Et au total, moi, c'est un jeu que je qualifie à peu près à 8.5 sur 10. Je suis quand même satisfait, malgré le fait que c'est un jeu assez facile, du fait qu'on ne meurt jamais. En fin de compte, moi, ça m'est pas arrivé de mourir à date grâce à Elika qui vient toujours nous chercher. Linéaire un peu, mais quand même à 8.5, je trouve ça intéressant. Malheureusement, il n'a pas de mode en ligne pour jouer. Donc, mais c'est pas vraiment la qualité des jeux de Prince of Persia.
Donc un jeu quand même assez facile là, si je comprends bien, parce que tu me dis que t'es même pas mort une seule fois, puis qu'en plus la personne qui t'accompagne, ton partenaire, peut toujours te réanimer.
Ben c'est ça, tout à fait.
Bon, ben, quand même 8.5. Donc c'était le Eye of Judgment de Vincent Langlois. Sinon Vincent, on va venir tout de suite après, on va faire juste un petit indicatif, on va venir parler de d'actualité ludique.
C'est parfait.
Vous êtes toujours à puissance maximale.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'écoute puissance maximale.
Alors, je fais le lien, n'est-ce pas, Vincent? Quoi de neuf dans le domaine ludique?
Ben moi, de mon côté, vous savez, c'est toujours de l'actualité ludique au niveau du jeu vidéo. Eh bien, si vous attendez Resident Evil 5, si vous êtes propriétaire d'une Xbox 360, vous aurez la démo bientôt en exclusivité. Capcom a annoncé la semaine dernière que la démo de Resident Evil 5, son prochain numéro, sera disponible en ligne pour la Xbox 360 et à partir du 26 janvier. Et l'exclusivité devrait être d'environ une semaine sur les joueurs de PlayStation 3. Dans cette démo-là, bien sûr, ce sera un jeu qui sera coopératif, le Resident Evil 5. Donc, on peut essayer le mode à deux joueurs, donc nous-mêmes avec le Xbox ou l'ordinateur, le mode deux joueurs local ou le mode deux joueurs en ligne. Donc, ceux qui ont une Xbox 360, tant mieux pour eux, ils auront l'exclusivité du jeu une semaine avant les autres.
Est-ce que c'est la première fois que Resident Evil, on peut jouer à deux?
Ben, il y a eu d'autres jeux dans lesquels, comme le Resident Evil Zero, dans lequel on avait un partenaire, mais c'était nous-mêmes qui le jouions. Là. C'était,
okay.
Mais on devait faire parfois utiliser les deux joueurs pour accéder à différents niveaux. Il y avait un joueur qui s'emprisonnait, et on devait prendre l'autre joueur pour aller le déprendre. Bon.
Ok, mais c'était nous-mêmes qui le contrôlait. Mais cette fois-ci, Resident Evil 5, on peut jouer par multiplayer. C'est intéressant. Sinon, Vincent, moi, je vais te lancer avec une autre nouvelle. Donc, 26 ans pour compléter un cube Rubik. Donc, c'est un gars qui s'appelle Graham Parker. Donc, il a travaillé pendant 26 ans pour faire son joual vert de cube Rubik. Hein, on se rappelle que c'est un simple jeu de puzzle. Là, il suffit de c'est un casse-tête. Il suffit de rendre chaque face du cube de la même couleur. T'sais, il a pris 26 ans pour faire ça et il a indiqué, il était fier, « J'ai manqué des événements importants dans ma vie pour le compléter. Je n'en dormais plus la nuit. J'avais des problèmes de dos à passer des heures là-dessus, mais ça en valait la peine. Quand j'ai mis la dernière pièce en place et que chaque face était de la même couleur, j'ai pleuré. » Donc, c'était quand même touchant.
C'était émouvant.
Et évidemment, l'histoire ne dit pas si les événements importants, ça avait rapport avec sa femme. Sa femme est un petit peu tannée qui passe son temps à jouer avec son cube Rubik. Sinon, quoi d'autre, Vincent?
Ben moi, c'est incroyable parce que, bon, vous savez, j'enseigne et j'ai quelques élèves, justement, qui peuvent le terminer en à peu près 2 minutes, le cube Rubik. Et, bon, moi, je l'ai essayé, vraiment, je suis assez nul, mais il y a une technique pour ça.
OK.
Moi, de mon côté, les joueurs chinois, les joueurs de MMO, ils devront maintenant s'enregistrer avec leur vrai nom et non faire des nicknames ou des surnoms, comme on dit. Il semble que le gouvernement chinois prenne très au sérieux des études sur la dépendance des jeux, et ceux surtout qui jouent au MMO du style World of Warcraft. Il semblerait que le gouvernement va demander aux joueurs de s'enregistrer en ligne avec leur vrai nom et leur code de la carte d'identité chinoise qu'ils ont. Et ce système est déjà présent en Chine pour des choses similaires. Donc, par exemple, si on veut avoir un blog, il semblerait qu'en Chine, on doive s'inscrire avec son vrai nom. Et également, si on partage des médias en ligne, donc des fichiers, soit par les différents sites de partage, il semblerait également qu'on doive s'inscrire avec notre nom. Donc, est-ce vraiment pour contrer le petit côté de dépendance du jeu, ou est-ce vraiment pour contrôler ce que les gens font? La question est lancée.
Et attention pour les joueurs chinois qui sont dépendants, parce que pour traiter la dépendance en Chine, c'est 3 mois d'entraînement militaire. Donc, c'est pas tout à fait jojo, j'imagine. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La situation des droits de l'homme en Chine, est-ce qu'elle est? Sinon, je te relance avec une autre nouvelle, Vincent. Donc, la prédation sexuelle sur Internet serait un problème surestimé. En effet, il y a 49 procureurs généraux aux États-Unis qui se sont penchés sur le cas de la sollicitation sexuelle des enfants en ligne. Et ils ont conclu que c'était pas un problème significatif. Et ils se sont rendus compte que les données scientifiques ont recueilli que les jeunes avaient peu tendance à avoir des contacts avec les adultes en ligne. Et que les jeunes qui étaient à risque, c'était ceux qui avaient déjà des problèmes à la maison, des problèmes domestiques, des problèmes de consommation de drogue ou autre. Donc, eux sont plus ouverts, disons, peut-être à être sollicités sur Internet pour des faveurs sexuelles. Et le groupe de travail des procureurs généraux a ajouté que l'intimidation entre les jeunes en ligne est de loin plus problématique. Donc, l'intimidation entre les jeunes... Hein, c'était pas nécessairement entre les jeunes et les personnes âgées ou les personnes des adultes. C'est vraiment entre les jeunes le problème. Donc ça, c'était une étude qui était menée par l'Université d'Harvard. Sinon, quoi d'autre, Vincent?
De mon côté, une dernière nouvelle. Je ne sais pas si les amateurs de Wii... Enfin, si vous êtes un amateur de Wii, si vous avez une Wii et que vous jouez en ligne, vous devez savoir ce qu'est un code ami.
Effectivement, c'est un code pour pouvoir nous permettre de retrouver nos amis pour pouvoir jouer avec plus facilement dans le fond.
Tout à fait. En fin de compte, pour jouer en ligne là, avec nos amis sur la Wii, on doit connaître le code de chaque console Wii de nos amis, et chaque jeu également vient avec son code personnalisé. Ça veut dire que on doit rentrer le code de la console Wii de notre ami et également rentrer le code du jeu quand on veut jouer. Donc, une fois que c'est fait, c'est déjà tout fait, mais c'est quand même des choses qu'on ne fait pas avec la PS3, par exemple, ou avec... la Xbox 360, on fait seulement rentrer le nom du joueur et on retrouve notre ami, mais ça devient vraiment dérangeant. Les gens sont vraiment tannés de ça. Il semblerait qu'en 2009, ça serait peut-être la fin de ces fameux codes amis, en fin de compte, surtout du côté des joueurs, des jeux qui sont produits par des troisièmes développeurs. Donc, pas Nintendo, mais les gens les compagnies qui produisent des jeux et qui ne font pas partie de Nintendo, eux également sont un peu tannés de ces petites choses-là. Il semblerait qu'on aurait, pour 2009, la possibilité de jouer sans ces fameux codes amis qui sont vraiment une perte de temps.
Ah, donc, quand même, c'est un petit peu comme Mario Kart, dans le fond, qui me permet de pouvoir retrouver des gens facilement. Sauf que dans ce cas-ci, ça va-tu nous permettre de pouvoir trouver nos amis facilement pour jouer avec?
Oui, mais ce qui est assez spécial, en fin de compte, là-dedans, c'est que vraiment, pour te brancher en ligne avec ton ami, ben avant de pour le trouver, finalement, il faut que tu l'appelles par téléphone et que tu dises, bon, c'est quoi ton code, oui, et c'est quoi ton code pour le jeu de, par exemple, Mario Kart, oui. Donc, tu l'appelles au téléphone pour faire quelque chose que tu pourrais faire en ligne directement, comme avec le PlayStation ou avec la Xbox.
Ouais, j'avoue, c'est un petit peu agaçant. On se retrouve à l'époque, Je me rappelle, là, je vais révéler un peu mon âge. Là, ça me rappelle les vieilles époques du qu'on jouait par modem. Il fallait s'appeler avant pour synthoniser la connexion sur le logiciel des communications. C'était merveilleux par modem à l'époque de jouer à Doom 2. Sinon, je te relance avec une autre nouvelle. Donc, une invention québécoise qui fait l'envie des géants aux États-Unis. En effet, il y a la D-Box Motion Gaming Chair qui a été créée par une gang de Montréal. Donc, c'est une sorte de grosse chaise high-tech qui est équipée de pistons, d'ordinateurs et tout ça. Et cette chaise permet simplement de simuler les effets d'une Formule 1, donc d'une voiture de course. Et jusqu'à maintenant, ça a été utilisé surtout pour visionner des films et des jeux vidéo très haut de gamme. Et donc, il y a Hewlett Packard, il y a Disney qui s'est montré intéressé à cette chaise-là. Une invention québécoise, donc qui sait, peut-être qu'un de ces quatre, il y en aura partout dans le monde, ces fameuses chaises, et qu'on va pouvoir jouer à des jeux de course et triper ben raide.
Mario Kart qui brasse, ça va être intéressant.
Oui, si t'achètes ta chaise 300$, là, ou 500$, même plus, ça serait possible. Sinon, est-ce que t'as d'autres choses, Vincent?
Moi, c'est tout pour moi.
C'est bon, donc écoute, Vincent, on va se dire sûrement à la semaine prochaine. On s'est manqué cette fois-ci à cause du temps, n'est-ce pas? Faut dire à nos amis français, n'est-ce pas, que le Québec est assiégé sous des tonnes de neige et que c'est toujours comme ça à chaque année.
Et si la semaine prochaine, je vous dis que le bateau ne part pas de Lévis, eh bien je traverserai sur les glaces.
Et tu marcheras sur l'eau. Donc, merci Vincent d'avoir appelé.
Ça fait plaisir, bonne fin de journée, les gars.
Donc, on rappelle que Vincent, il est venu nous parler de Prince of Persia et qui nous a fait un petit peu d'actualité ludique. C'est toujours bienvenu. Sinon, on poursuit avec une pièce musicale. Ça va être des Planet Smashers, un groupe de ska de Montréal qui va faire All Men Fear Women, et particulièrement chez les geeks, n'est-ce pas, tous les gars ont peur des femmes, des fois. Donc, vous écoutez Puissance Maximale.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Eh oui, vous êtes toujours à Puissance Maximale et c'est presque la fin de l'émission. Un petit peu de musique instrumentale? Oh oh! Quoi faire, hein? Cette semaine, si vous avez envie de sortir, très simple, dirigez-vous demain au Café Aga. C'est les parties de Go, n'est-ce pas? On salue la gang du club de Go qui sont complètement déchaînés à Québec et qui jouent à ce jeu de plateau antique japonais. Sinon, jeudi et vendredi, c'est des parties de Magic à la librairie Donjon. Il y a aussi des parties de Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000 le mercredi et samedi. Dimanche, c'est des parties de Yu-Gi-Oh! Et tout ça, c'est à la librairie Donjon à Québec. Sinon, chaque mardi aussi, chaque mardi soir, à la Ninkasi, c'est un bar situé sur la rue Saint-Jean, il y a des parties de hockey de Wii, avec la Wii. Donc, il y a plein de gens qui jouent au hockey. C'est super le fun, c'est ludique. Et on boit en même temps, on s'amuse. Sinon, le 1er février, c'est quoi? C'est la Fierté Geek, bien sûr, au Cercle de 13h. On va écouter le documentaire Suck My Geek, qui est un documentaire sur la culture geek en France. Et il y a plein de gens là, de connus, il y a le producteur de Kaamelott, les gens de Shaun of the Dead, de Jay and Silent Bob. On va aussi faire dans la Fierté Geek le lancement du fanzine de Puissance Maximale. Ça, c'est un magazine papier qui porte sur le bien. Sinon, il va y avoir aussi des courts-métrages d'Hello Geekette et ça va être le gros power. On va pouvoir boire de la boisson énergisante, manger des chips, peut-être même danser. Et peut-être pourrez-vous nous toucher. Sinon, bien, on se dirige directement à l'Abraham Martin ce soir pour jouer à des jeux de plateau. L'Abraham Martin, à tous les lundis de 18h, on joue à des jeux de plateau. Ça coûte pas une joie le verre de scène, donc venez nous voir. Sinon, on se laisse là-dessus. Alors, je remercie tous les gens qui ont participé. Guillaume Forand, Alexandre Bélanger, Vincent Langlois. Est-ce que j'oublie quelqu'un? C'était François Jacouillard et je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'informations, puissancemaximale.com. Ciao, ciao.
Middle harmonica.